J'ai intitulé mon message ce matin « Les vertus de l'homme de Dieu ». Nous nous trouvons dans Éphésiens 4 et au verset 25. C'est là où nous avons terminé notre étude il y a des mois en arrière. Alors il faut savoir que si vous êtes nouveau aujourd'hui, j'ai fait une révision détaillée des trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens que nous avions donc déjà étudié l'an passé. Et cette révision, je l'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Et vous pouvez la trouver sur notre site internet en audio ou bien aussi en manuscrit. Donc je vais simplement aujourd'hui donner une révision très rapide et vraiment rentrer dans notre texte sans rentrer dans le détail. Alors juste avant de regarder à nos textes précisément, quelques mots sur le contexte. L'épître aux Éphésiens était en fait une lettre écrite par l'apôtre Paul à l'église qui se trouvait à Éphèse. C'était la capitale de l'Asie proconsulaire qui se trouve en Turquie aujourd'hui. Et alors, c'est Paul qui a fondé cette église lors de son troisième voyage missionnaire. Et ça, de nouveau, on ne va pas le parcourir, mais vous pouvez lire le récit dans Actes chapitre 19. Et lorsque Paul écrit la lettre à Éphèse, il est en prison à Rome. Alors le livre ou l'épître veut dire lettre, n'est-ce pas? Donc l'épître a une structure très précise et très facile à suivre aussi, car en fait il y a deux parties, deux grandes parties. Les trois premiers chapitres décrivent la nature du salut, la nature des richesses éternelles que Dieu nous donne en son salut, et les trois derniers chapitres décrivent à quoi devrait ressembler celui qui a placé sa foi en Christ et qui est donc sauvé. Donc les trois premiers chapitres sont plutôt théologiques, ça on les a déjà vus, et maintenant on arrive à la partie pratique, et c'est pour ça que je voulais surtout pas sauter cette partie, parce qu'elle est hyper pratique, comme vous allez le voir ce matin. Et alors le but de notre texte ce matin, on rentre vraiment maintenant dans ce que Dieu veut pour le chrétien. Celui qui est sauvé. Ce sont les vertus de l'homme nouveau. On va lire le texte qui nous concerne donc dans Éphésiens 4 à partir du verset 25. Paul dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc comme vous pouvez le voir, cette deuxième partie est extrêmement pratique. Regardez verset 25. Paul écrit « C'est pourquoi renoncez aux ». On s'arrête là. Alors c'est intéressant, « c'est pourquoi » nous fait vouloir regarder en arrière, bien sûr. Il est en train de donner la raison ou la conséquence de ce qu'il vient d'écrire. Alors qu'est-ce qu'il vient d'écrire? Ah, il faut reculer au verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Verset 23, « Vous devriez être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est pourquoi. Nous voyons en fait que Paul ici est en train de faire un contraste en deux groupes de personnes. D'un côté les païens et de l'autre côté les chrétiens. Alors le mot païen décrit celui qui ne connaît pas Christ personnellement et dont la vie n'a pas été transformée par Jésus-Christ. C'est ce que nous étions tous avant notre conversion. Nous étions des païens dans le sens biblique du terme. Et au chapitre 2 d'Éphésiens, reculant un petit peu plus, on comprend la description du païen. Il dit ceci, et donc il se met dans le bateau. Hein, il dit, vous étiez morts, du moins nous, mais nous dans le bateau, ceux à qui il écrit à Éphèse. Il dit, vous étiez morts, verset 1, par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux, nous étions des païens. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais regardez le verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, ces versets que nous avons, j'espère, tous mémorisés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Regardez verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, je crois que nous arrivons à la clé de notre texte. Au verset 10, il dit, nous étions tous païens, mais nous avons rencontré Christ. Il nous a transformés et au verset 10, il est en train de dire que toute personne qui reçoit le salut par la foi en Christ et qui est sauvé, écoutez bien, va le démontrer dans sa vie par des œuvres appropriées, des bonnes œuvres. C'est automatique. Un chrétien régénéré va le démontrer par une vie régénérée. C'est ce que Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3. Et au verset 2, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Oui, on se repent, Dieu transforme la vie et il y a le fruit qui doit être visible. Dans Romains 6, il dit exactement la même chose. Et au verset 22, nous on a l'habitude de lire le verset 23, mais commençons au verset 22. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Le fruit de notre vie est sainteté et pour fin la vie éternelle. Et 1 Jean 2, 3 et 6 nous dit que nous allons ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et donc voilà le but de cette deuxième partie du livre d'Éphèse que nous commençons quelque part aujourd'hui. Y a-t-il du fruit ? Y a-t-il du fruit dans nos vies, nous qui avons été touchés par la grâce de Jésus-Christ? Eh bien, si vous avez été touchés par la grâce de Jésus-Christ, la réponse est oui, obligatoire. Ah, alors peut-être c'est des hauts et des bas, peut-être c'est un peu la bourse, hein. Il y a pas mal de hauts, pas mal de bas, c'est un petit peu en pointillé, mais il y aura un progrès évident. Ça, c'est la vie chrétienne. Alors on pose la question, mais alors, quel est le fruit? Comment reconnaître le chrétien? Quelle différence fondamentale y a-t-il entre un chrétien et un païen? Quelle différence devrions-nous voir dans nos vies, puisque nous étions païens à un moment donné et que nous avons été transformés par la grâce de Jésus-Christ? Eh bien, il y a énormément de changements. Et c'est ce qu'on va voir dans ces trois chapitres. Dans notre texte de ce matin, nous voyons que l'homme nouveau reflète, entre autres, six vertus nouvelles. Mais elles sont tellement intéressantes qu'on va en regarder que deux ce matin. D'accord ? Que deux. Et là, je pense qu'on aura de quoi réfléchir avant de rentrer à la maison et appliquer ça cette semaine. Alors, quelles sont les vertus de l'homme nouveau ? C'est ce qu'il dit au verset 24, « Revêtissez l'homme nouveau ». Verset 25, c'est pourquoi ? Eh bien, la première vertu d'un homme nouveau est celle-ci. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il est caractérisé par la vérité. C'est intéressant que dans ce verset, les temps de verbe sont très importants. Il y a un impératif, parler selon la vérité et un participe passé ayant renoncé au mensonge. Donc, ce qui est clair, c'est que le commandement est celui-ci. Le chrétien parle selon la vérité. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un trait de caractère du chrétien ? Bien, je crois que déjà le verset répond par le participe passé. Parce qu'une des choses qui va arriver à celui qui se convertit à Jésus-Christ, c'est qu'il va renoncer au mensonge. Ici, c'est un participe passé, ayant renoncé au mensonge. C'est un automatisme. Et alors, puisque le chrétien dorénavant renonce au mensonge, il n'a que deux choix. Ou bien, il dit la vérité, mais il y a une troisième option. Il ne dit rien. Il dit rien. Ça, c'est un peu difficile. Donc, il n'y a qu'une option qui reste. Il doit dire la vérité. Alors, qu'est-ce que le mensonge ? Le mot grec, vous allez le reconnaître, c'est le mot pseudo. Vous savez, c'est marrant, des gens, ils disent des fois, « Ouais, bon, j'ai dit une pseudo-vérité. » Vous avez déjà entendu ça ? Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot pseudo ? Menteur. Ouais, alors j'ai dit une vérité mensongère. Ça n'a aucun sens, hein. Mais bon, c'est les manières, c'est les techniques humaines pour faire croire qu'on dit ce qu'on n'a pas vraiment envie de dire, d'accord ? Le mensonge, c'est une altération volontaire de la vérité dans le but de tromper son prochain. Alors, les Écritures ont beaucoup à dire sur le mensonge. Par exemple, Lévitique 19:11, « Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. » On ne devrait pas le faire, ça devrait être exclu. Psaume 119:29, « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » C'est intéressant, il dit, « Seigneur, je ne veux pas être dans le mensonge et aide-moi à suivre ta loi. » La loi de vérité. Proverbe 6:16, « Il y a six choses, écoutez bien, il y a six choses que hait l'Éternel. » Moi, des textes comme ça, je les aime bien. Voilà ce que le Seigneur hait. C'est du mot haïr, c'est très très fort. Voici six choses que hait l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. 1. Les yeux hautains. 2. Devinez quoi ? La langue menteuse. Et je vous laisse lire le reste de ces choses que le Seigneur hait. D'accord ? Proverbe 6:16. Proverbe 12:22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et c'est intéressant que dans le jugement final, la place des menteurs non régénérés sera dans l'étang de feu et de soufre avec les magiciens, les débauchés, les meurtriers et les idolâtres, selon Apocalypse 21:8. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Le mensonge ne caractérise pas celui qui est régénéré. Alors, question, pourquoi est-il inapproprié pour un chrétien de mentir ? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas mentir ? Eh bien, c'est simple. Parce que le mensonge va à l'encontre de la nature même de celui qui nous a sauvés. Et ça, je trouve vraiment phénoménal. Dieu établit dans Jean 17:3. Écoutez bien, Dieu est appelé, Jean 17:3, un Dieu de vérité. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Il est vrai, un Dieu de vérité. C'est intéressant, Jésus dit dans Jean 14:6, vous vous rappelez ? Il dit très, très simplement et clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et encore dans Jean 16:13, il dit par rapport au Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est intéressant que Dieu le Père est vraie vérité, Jésus-Christ est vérité, le Saint-Esprit est vérité, la Trinité est vérité. Et en plus, Jean 17:17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité ». Donc, en plus, la parole de Dieu est vérité de A à Z. Nous apprenons dans Tite 1:2 que Dieu ne ment pas. C'est intéressant, hein, Paul, Tite 1:1, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est vrai, Christ est vrai ou vérité, le Saint-Esprit est vérité, la parole est vérité, Dieu ne ment pas, nous avons été régénérés par Dieu et donc nous devrions caractériser ce même attribut. Alors regardez maintenant dans Éphésiens 4:25, la raison que Paul donne pour nous encourager de nous dire la vérité les uns aux autres. Il dit: renoncez aux mensonges, car chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il a dit: écoutez bien, mes amis, vous êtes membres les uns des autres. Imaginez si la norme entre nous était de nous mentir les uns aux autres. Imaginez un instant que toutes nos relations soient basées sur le mensonge. D'accord? Imaginez dans un couple, si une épouse ou un époux mentait continuellement à son conjoint, qu'est-ce qui se passerait? L'éclatement du couple, il n'y aurait plus aucune confiance. Imaginez si en tant que votre pasteur, mon habitude c'était de vous mentir constamment. Je crois que l'église se viderait très vite. Imaginez si au niveau de l'église, dans toutes vos relations ou même au travail, tout était basé sur le mensonge. Ce qu'on lui disait n'était en fait pas vrai. Imaginez si nos politiciens basaient leur campagne électorale sur le mensonge. Je dis bien imaginez, hein, d'accord. Imaginez si votre banquier basait tout son commerce sur le mensonge. Oui, oui, donnez-moi votre argent, je vais l'investir et je vous le rendrai dans quelques années avec intérêt. Imaginez si les radars routiers étaient basés sur le mensonge. Ils disaient « je vous chope à 40 », mais en fait, c'est à 20. Ah ouais, ça créerait quelques petites réactions. Et imaginez un enfant, comment est-ce qu'il réagirait à un parent qui lui fait des promesses, mais qui ne les garde pas. Ce serait terrible. Vous savez, c'est tellement pratique. Alors laissez-moi vous donner vraiment la raison, je dirais, suprême pour laquelle nous devrions ne jamais mentir et dire la vérité. Jean 8, 44. Allez dans vos Bibles à Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jésus dit quelque chose d'absolument époustouflant ici. Il est en train de parler aux pharisiens, aux juifs, et il leur dit ceci. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre gré, fond, et il est menteur et le père du mensonge. Dans Genèse 3, lorsque Satan a tenté Adam et Ève, c'était par un mensonge. Il leur a dit: mais est-ce que Dieu a vraiment dit que si vous prenez du fruit de l'arbre, vous mourrez? Mais non, c'est des bobards. Il essayait de leur faire croire que Dieu n'était pas vrai et lui voulait leur faire croire un mensonge. Il est le père du mensonge. Et mes amis, il est en train de dire à ceux qui n'étaient pas régénérés que leur père est le diable, père du mensonge. Donc, qu'est-ce qui caractérise le non-chrétien? C'est plus le mensonge que la vérité. Et qu'est-ce qui donc, en revanche, devrait caractériser le chrétien? C'est d'être dans la vérité parce que celui qui l'a sauvé est vrai et vérité. Alors, soyons pratiques. Comment faire pour ne plus mentir? D'accord? Je vais essayer de nous aider. Très pratique. Peut-être que vous avez l'habitude de mentir de temps en temps pour des choses, grandes choses, petites choses, moyennes choses. C'est encore un reste de votre passé. Laissez-moi vous aider. 1. Rappelle-toi d'où vient le mensonge. De vous rappeler que le mensonge est caractérisé de Satan et que la vérité de Dieu, je pense, t'aidera quand tu es tenté de mentir et te dire: mais t'as voir, ce n'est pas qui je suis. Je suis caractérisé par la vérité aujourd'hui. Donc je n'ai aucune raison de mentir. 2. Repens-toi. Si tu mens, si tu es convaincu que c'est un péché, repens-toi. Demande pardon au Seigneur et il te pardonnera. Dis-lui: Seigneur, je veux être un homme ou une femme de vérité. Je te demande pardon. Je veux me détourner de cette mauvaise habitude dans ma vie. 3. Apprends à haïr le mensonge. Apprends à haïr le mensonge. Demande au Seigneur de t'aider à le haïr, à détester le mensonge. Dans le psaume 119 et 163, « Je hais, je déteste le mensonge et j'aime ta loi », nous dit l'auteur. Seigneur, aide-moi à aimer ta loi et détester le mensonge. 4. Prie que tu sois préservé du mensonge. Le psaume 119, 29, David écrit « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » C'est un sujet de prière, ça. 5. Pratique la formule « oui-non » donnée par Jésus. Ça, c'est vraiment pratique. Dans Matthieu 5, Jésus nous donne une formule. Matthieu 5, 33. Il dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, ne jurez aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi, ni jure non plus par la tête, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc, noir, un seul cheveu. » Alors, ils avaient une combine. Tu pouvais faire une promesse, mais tu pouvais faire que la promesse soit moins vraiment engageante si tu jurais sur quelque chose de moins engageant. Si tu jurais au nom de Dieu, ça t'engageait. Mais si tu jurais au nom de la tête de ta mère, c'était beaucoup moins engageant. Jésus dit, mais c'est quoi comme combine ça? Ça, c'est des combines humaines, révélateurs de fausseté. Il n'y a pas besoin de jurer. Et voici la formule qu'il dit. Il dit au verset 37... Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il a dit, si tu es caractérisé par la vérité, si c'est la norme dans ta vie, quand tu dis oui, ben les gens vont dire, ah bon? Ben, le oui, c'est oui. Il n'y a pas besoin de dire, oui, je te promets, je te promets, je te promets. Mais non, si ta vie est caractérisée par oui, ben c'est oui. Si c'est non, ben c'est non. Et voilà, je crois, à quoi nous devrions tendre. Nous sommes tellement remplis de vérité que ce qu'on dit est toujours vrai et juste. Et je pense, dernièrement, sixième point, pour être très pratique, réfléchis bien aux conséquences de mentir. Moi, je pense qu'à la longue, le mensonge mène à la destruction de relations. Et tu vas te retrouver tout seul. Parce que personne n'aura confiance en toi. Alors bien sûr, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur le mensonge et la vérité. Mais je crois qu'on a quand même pas mal décortiqué ce verset 25. Que le Seigneur nous aide à être hommes, femmes et enfants pleins de vérité. Deuxième chose que j'aimerais voir dans ce texte, non seulement le chrétien dit la vérité, mais deuxièmement, il maîtrise sa colère. Il maîtrise sa colère. Alors là, on va devenir un petit peu inconfortable. D'accord ? Verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Verset bien connu, je pense que vous l'avez peut-être probablement déjà cité. Essayons de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Alors, ce qui est intéressant, premièrement, c'est que ce verset contient 4 impératifs. 4 impératifs, donc 4 commandements. D'accord ? 1. Là, vous allez le surprendre parce que notre traduction n'est pas toujours correcte, ça dépend de la Bible que vous avez. Le premier impératif, c'est celui-ci. Mettez-vous en colère. C'est un impératif dans le grec. C'est un commandement. Mets-toi en colère. Alors là, vous dites, mais c'est super. Ça, j'obéis toujours, ce verset. Je l'obéis régulièrement. Alors là, je bénis le Seigneur pour ce commandement. Ça, c'est hyper facile, Seigneur, merci, d'accord? Alors, en fait, c'est pas fou de réagir comme ça, parce que c'est un commandement. Mais, lisez toujours la Bible dans son contexte. Quel est le deuxième commandement? Ne péchez point. Ah! Ah! Donc, oui, il faut se mettre en colère, mais oui, il ne faut pas péché en se mettant en colère. Donc, il y a une nuance très importante là. Troisième commandement, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Et quatrième impératif, ne donnez pas accès au diable. Alors, essayons de comprendre. D'accord ? L'homme nouveau, donc, bonne nouvelle, peut se mettre en colère. Ce n'est pas un mal, nécessairement, de se mettre en colère. Est-ce que vous êtes heureux de le savoir ? Bien, je suis content. Mais l'homme nouveau doit maîtriser sa colère. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, d'accord ? Non, c'est une bonne nouvelle. Alors, mettez-vous en colère. Il est intéressant de noter, donc, il est parfois approprié de se mettre en colère, même en chrétien. Ce qui veut dire que la colère en elle-même n'est pas toujours mauvaise. Elle peut l'être. Alors, le mot pour colère, c'est un mot grec, orgizo. Il y a d'autres mots qui décrivent plus ou moins la même chose avec des nuances différentes. Quand vous trouvez dans votre Bible fureur ou indignation ou se fâcher ou colère, c'est le même groupe de mots globalement. Un article que j'ai lu cette semaine décrit la colère comme ceci. Généralement, la colère naît chez quelqu'un lorsqu'on menace ce qui a de valeur pour lui, ce qu'il chérit. La colère se traduit par des paroles de mécontentement, une respiration bruyante, d'accord, de l'agressivité à l'égard de celui qui lui offense. Moi, ça arrive surtout en voiture, d'accord. La colère est passagère, heureusement. Elle monte à travers les mots et les gestes. Et elle peut aussi être contenue, persistante. Elle conduit à la haine ou à une passion dévorante qui aspire, alors ça c'est vraiment, je dirais, dans les cas extrêmes, qui aspire à l'anéantissement de l'offenseur. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, d'accord. Mais si elle n'est pas contrôlée, elle peut arriver jusqu'à vouloir la destruction de cette personne qui irrite. Alors comment comprendre ce qu'on appellerait une juste colère? Alors je crois qu'il faut en premier comprendre que nous voyons dans la Bible que la Bible parle de la colère de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu est parfaitement saint. Il est saint, il est sans péché. Pourtant, il exprime de la colère. Et cette colère se déchaîne à cause du mal et de l'injustice commis par l'homme pécheur. C'est intéressant, par exemple, dans Romains 1, 16. Dans Romains 1, 16, il est dit ceci, plutôt 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc Dieu révèle sa colère contre l'impiété et l'injustice. Dieu est saint. Donc Dieu, en exprimant cette colère, bien sûr, ne pèche pas, il ne peut pas pécher. Nous voyons cette même vérité, par exemple, dans Jean 3, 36, où il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc nous voyons de nouveau que Dieu est un Dieu de colère contre le péché, contre l'injustice, bien sûr, sans jamais pécher. On sait aussi que Jésus a exprimé la colère à plusieurs reprises. Peut-être l'exemple le plus flagrant, c'est dans Jean 2, lorsqu'il va vider le temple. Vous vous rappelez, il y avait tous les marchands, et là, il se met en colère, il prend un fouet, il vire tout le monde du temple. Il est vraiment en colère. C'est une sainte colère. Il a un zèle pour la maison de Dieu. Il est triste de voir que la maison de Dieu a été vraiment utilisée pour n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que lorsque le Seigneur reviendra un jour, vous pouvez lire dans Apocalypse 19 la bataille d'Armageddon. La colère de Jésus-Christ avec l'épée qui sort de sa bouche va tuer des centaines de milliers de rebelles. Il y aura du sang et ça ne va pas être beau. Une sainte et une juste colère à la fin des temps. Et ce qui est étonnant, c'est que la colère de Dieu a été manifestée contre nous, mais c'est Jésus-Christ qui a pris la colère de Dieu sur lui, celle qui était contre nous. Donc il a subi lui-même la colère de Dieu à la place de l'homme pour le délivrer de la colère à venir. Donc on peut conclure que l'homme peut éprouver quelque chose de la colère de Dieu en face du péché, des injustices humaines. Je ne pense pas que la Bible condamne cette colère. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous dit d'être en colère contre le péché et l'injustice. Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez, lorsque Moïse est redescendu dans Exode 32, d'avoir reçu les 10 commandements, et il voit le peuple qui a fait le veau d'or en train de se prostituer. Et Moïse se met dans une rage et il prend la loi, il la casse. C'est une sainte colère contre le péché de ceux-là qui ont décidé de pratiquer l'idolâtrie et se détourner de Dieu. Nathan s'est mis en colère devant l'adultère et le meurtre du roi David. Il y a plein d'exemples comme cela. Je pense que c'est la même colère que nous pouvons ressentir contre le viol d'un enfant ou contre un membre de votre famille qui est tué par un homme qui conduisait sa voiture en état d'ivresse. C'est une sainte colère et une juste colère. Et c'est pour ça, dans Romains 13, que Dieu en plus nous a donné le système de justice, de loi dans nos pays, pour pouvoir, dans certains cas, trouver justice lorsqu'une injustice a été faite contre nous. Mais regardez ce qu'il dit maintenant dans le verset aussi. Si, ou plutôt, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. C'est intéressant que la colère et le péché sont étroitement liés. Il est possible de pécher dans sa colère, même une colère justifiée. Allez avec moi à Jacques 1, je crois que c'est la clé. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19 et 20. Jacques dit ceci. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est intéressant, il est en train de dire que notre colère, aussi justifiée qu'elle puisse l'être, ne peut pas accomplir les desseins de Dieu. Seul Dieu livre la conséquence finale du péché qui provoque notre colère. On y reviendra dans quelques instants. Alors, comment pécher lorsque nous-mêmes nous mettons en colère? Comment est-ce qu'on pêche lorsqu'on se met en colère? Nous péchons dans notre colère lorsqu'elle est prolongée, lorsqu'elle provoque chez nous une irritation continue et croissante. Notre colère peut devenir une obsession. Alors il est parfois juste de se mettre en colère, mais jamais d'être consumé par cette colère, d'en devenir obsédé. Ok, alors comment la maîtriser? Alors là, il n'y a rien de plus pratique. Bien sûr, j'apprends à l'appliquer moi-même, d'accord? Mais c'est tellement pratique. Comment alors maîtriser cette colère afin que notre colère justifiée ne devienne pas péché? Eh bien, regardez Éphésiens 4, parce qu'il nous donne la réponse. Éphésiens 4 et au verset 26, « Si, plutôt, mettez-vous en colère, ou si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? Que cette injonction nous force, écoutez bien, à agencer notre colère dans notre calepin. Qui a un calepin ou un palme? Qui a un calepin, un calendrier? Levez la main si vous avez un calendrier. C'est tout? D'accord. Vous pouvez agencer dans votre calepin votre colère. C'est ce qu'il dit. Par exemple, tu devrais prendre ton agenda si tu sens qu'il y a une colère justifiée dans ta vie. Et tu pourrais marquer, bon, le soleil se couche, je ne sais pas exactement à quelle heure, disons à 6h ou 7h. Allez, on va dire peut-être un peu plus loin, si vous voulez, 10h, avant d'aller dormir. Tu mets 22h ou 21h ou 20h, tu dis voilà, à 21h c'est fini. C'est ce qu'il dit, hein? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, tu es en train de te dire qu'à 9h ce soir, ou 8h ce soir, c'est fini. Alors, c'est intéressant, c'est une décision. C'est un choix. Si on se couche avant, on règle avant, d'accord? On règle avant de se coucher, c'est ça la clé, d'accord? Mais c'est un choix. C'est ce qu'il est en train de dire. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, il y a deux options. De dire, soleil ne te couche jamais. Ça, ça n'arrivera pas. D'accord? Donc, il n'y a qu'une solution. C'est que je règle mon problème de colère avant que le soleil se couche. C'est ce qu'il dit. Et je crois que cette phrase est en train de nous dire que lorsque le sentiment de colère perdure pendant longtemps, au-delà de la journée, que cela mènera à des explosions de colère et de frustration qui nous feront ensuite pécher. Cette injonction nous dit qu'il faut en fait en faire l'habitude de ne pas nourrir sa colère au travers de la nuit. C'est comme il est en train de dire qu'il est essentiel de garder de courts registres de notre colère et de régler notre problème de colère avant le lever du jour pour ne pas pécher. Donc, ne reste pas en colère jusqu'au lendemain. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est hyper pratique, mais pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Et ne donnez pas accès au diable. C'est la suite. Ne pas mettre cette injonction en pratique peut avoir des conséquences terribles. Cela, nous dit le texte, peut donner accès au diable. C'est le résultat possible d'une colère prolongée. Alors le mot diable, c'est le mot diabolos, accusateur ou adversaire. Et on l'a vu, Satan est menteur, il est accusateur. C'est le père du mensonge, il est meurtrier. Satan veut te voir détruit. Il veut voir ta vie en déroute et en désordre. Il veut que ta vie contredise l'évangile pour que tu n'aies eu aucune efficacité dans ta propre vie et dans la vie des gens qui te regardent. Et donc, il cherche une manière de te dévorer. Et il cherche la faille. Et la colère, c'est une de ces failles. Chez toi, mais chez moi aussi. C'est une de ces failles. Et si une solution rapide n'est pas trouvée entre parties envenimées l'un contre l'autre, cela peut aboutir souvent à plus de colère qui peut mener à la vengeance. Et là, Satan, il est tout content. Il est tout content. Dans Romains 12, la Bible est claire sur la vengeance personnelle. Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Il y a un moment donné, vous savez, alors, il nous dit dans Romains 13 qu'il y a des cours de justice possibles. Un crime, disons, il y a des choses où on peut tout à fait suivre les cours de justice. Il y a certaines situations dans la vie où on ne peut pas. C'est les conflits entre personnes. Il n'y a pas une cour de justice. Et à un moment donné, on est tellement envenimé, il y a un désir de vengeance. C'était injuste. J'ai été traité de manière très injuste. Et donc, je veux maintenant me venger. Et là, Paul nous dit « Prends garde ». Ne te venge point vous-même, personnellement, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc ça fait un peu peur. Une colère non maîtrisée peut donner accès au diable. Il va profiter de cette faille et nous faire du mal. Alors comment est-ce que cela marche dans la souveraineté et la providence de Dieu? Je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a autorisé Satan à avoir quelque chose de terriblement néfaste envers Job. Donc nous devons maîtriser notre colère. Alors, l'application, et je termine avec l'application. Et toi, il est possible que toi, tu portes un fardeau, peut-être tu portes un sentiment de colère pour telle ou telle situation ou telle personne, peut-être pendant des années. Peut-être il y a des gens dans ta vie qui t'ont fait du mal et vous avez la peine à lâcher. Vous êtes rongé, vous êtes frustré. Peut-être il y a l'amertume qui ressurgit régulièrement et vous nourrissez votre colère. Je pose la question, est-ce que le diable a eu accès? Ou est-ce qu'il est en train de frapper très très fort? Alors, soyons pratiques. Comment stopper la colère avant 22h ce soir? D'accord? Comment stopper notre colère avant 22h ce soir? Repens-toi. Repens-toi. S'il y a de la colère qui n'a pas été maîtrisée, ces sentiments qui reviennent, alors peut-être qu'ils vont revenir. Mais repens-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, c'est pas juste. Je veux lâcher. Je veux tourner la page. Seigneur, je te demande pardon. C'est une injonction ici. Et je la désobéis, donc je suis dans le péché. Seigneur, je te demande pardon. Je veux me tourner de ce péché de colère. Et je veux le faire avant le coucher du soleil ce soir. Ô Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas donner accès au diable. Confesse-lui ton péché. Et dis-lui que tu veux corriger cela aujourd'hui. Deux. Reviens à la parole de Dieu. Et surtout Jacques 1:20. Soyez lents à vous mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est très utile comme verset. Savez-vous ce qu'il dit? Écoutez très bien. La colère de l'homme ne sert strictement à rien. Voilà ce qu'il dit ce verset. Ça sert à rien. Parce que est-ce que ma colère produit la justice de Dieu? Est-ce que ça crée l'aboutissement de la justice? Non. Est-ce que de me mettre en colère servira à quelque chose? Non. Est-ce que de me mettre en colère va éliminer le problème? Probablement pas. Est-ce qu'une colère prolongée va aider le problème? Non, probablement l'envenimer et l'empirer. Donc, je devrais être lent à la colère. Je vous donne un exemple. Moi, il y a deux choses. Confession, d'accord? Confession publique. Il y a deux choses dans ma vie qui provoquent un sentiment surgissant de colère dans mon cœur. Vous savez ce que c'est? Un, l'informatique. Comme mon ordinateur sur lequel je suis un drogué parce que j'ai absolument besoin de mon ordinateur, je ne peux pas vivre sans, lorsqu'il ne marche pas, il y a une tendance à vouloir devenir colérique. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà eu le même sentiment que moi, j'ai un portable. Des fois, je me dis, ça ferait un super frisbee. Deuxième chose qui provoque de la colère dans mon cœur, c'est la circulation. Le trafic. Les embouteillages. J'ai vécu à Paris pendant 10 ans. Là, j'ai vraiment vu que j'avais un problème dans mon cœur de colère. À Genève, c'est mieux, mais c'est pas 100% réglé encore. Et c'est vrai que je confesse régulièrement. C'est dur, hein. Ça, c'est vraiment dur. Mais pensez-y. Regardez Jacques 1:20 comme c'est pratique. Voilà. Disons que je suis très pressé pour un rendez-vous important. Bien sûr, j'aurais dû quitter la maison avant, plus tôt. Bref, je suis en train de conduire ma voiture derrière une personne qui conduit super lent. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? D'accord. Alors, bien sûr, j'ai un sentiment de colère qui peut surgir. Colère volcanique, non, quand même pas, d'accord. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un sentiment de frustration. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qui se passe? La colère peut monter. Ensuite, je peux être tenté même d'injurier cette personne. C'est une tentation, bien sûr. Question, à quoi a servi cette colère, ou même cette injure? Ça a servi à quoi? Absolument rien. C'est ce que Jacques 1:20 dit. En fait, est-ce que ça va faire, si moi j'injurie ou si je me mets en colère, est-ce que la personne devant va dire « Oh, je ferais mieux d'accélérer ?» Bien sûr que non. Non. Est-ce que ma colère m'aide à ne pas rater mon rendez-vous? Non. La seule chose que ma colère pourrait faire, c'est de me faire prendre un risque stupide, de dépasser de manière dangereuse cette personne lente qui pourrait nuire à ma sécurité, à sa sécurité et à la sécurité de personnes innocentes. Mes amis, voilà, ma non-maîtrise de ma colère peut donner accès au diable qui aimerait beaucoup qu'on fasse du mal à autrui. Donc, un, repens-toi. Deux, reviens à la parole de Dieu. Trois, accepte l'injustice. Je ne fais que de le mentionner. À un moment donné, mes amis, la seule manière de réduire notre colère, c'est de réaliser qu'il faut accepter l'injustice. Peut-être on m'a fait un tort, peut-être il y a une injustice vis-à-vis de moi. Mais écoutez, pensez à Jésus-Christ. C'est la plus grande injustice de tous les temps. Lui, il a pris notre péché, il n'aurait jamais dû. Sa crucifixion était injuste de A à Z. Eh bien, parfois, on est dans la même situation. J'accepte l'injustice. Et Seigneur, ok, je tourne la page et je te permets de te glorifier même dans cette injustice. Et ça, c'est hyper important. Tu acceptes l'injustice, tu acceptes le tort, tu acceptes le mal, tu payes la dette et tu lâches. Et quatre, et je termine avec ça. Maîtrise tes pensées. Décide que tu ne vas pas te venger. Décide que tu ne vas pas te venger. Décide que tu ne vas pas parler à d'autres de ce problème, surtout dans un mode de calomnie. Et aussi, demande au Seigneur de t'aider à ruminer cette chose. Ruminer cette chose dans ton esprit. Lâche. Lâche. Voilà les deux premières vertus d'un homme nouveau. Un, il dit la vérité. Deux, il maîtrise sa colère. Vous voulez entendre le reste pour la semaine prochaine ? Il faudra revenir pour les avoir. Je vous les donne. Trois, il honore le travail. Oui, travaille donc, travaille lundi matin. Quatre, il contrôle sa bouche. Ça fait mal, ça. Cinq, il élimine la haine. Et six, il exerce l'amour. Mais pour ces points-là, on les développera dimanche prochain. Prions. Seigneur, merci de tout cœur pour la parole de Dieu qui est si pratique. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être un peuple qui disons la vérité, Seigneur, et qui savons maîtriser notre colère. Et nous t'en remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.